Je propose de lire trois courts passages de l'Ancien Testament. Le premier dans Ésaïe 53. Et après, un verset du Nouveau Testament. Ésaïe 53. Et le verset 6, Ésaïe 53, verset 6, « Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés, chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Tout d'abord, juste ce verset de ce chapitre très connu et chéri, je dirais. Si on lit le chapitre entier, on remarque bien que c'est une prière qui sera priée par un groupe de personnes dans l'avenir, ce résidu juif, qui reconnaîtra « Nous avons été tort en crucifiant Jésus » parce qu'en fait, il était notre Messie. Et ils avouent leur faute, et c'est ça leur conversion et leur restauration. Mais ce chapitre apporte bien sûr un enseignement pratique aussi à nous. Et combien ce verset est vrai. Nous en avons parlé un peu dans nos cantiques, que des fois nous nous éloignons, nous ne voyons pas le Seigneur, mais il invite. Il dit « Venez à moi ». Et le verset 6 donne une description très intéressante de notre vie avant la conversion. Il dit « Nous avons tous été errants comme des brebis ». Moi, je ne suis pas un berger et non plus un vétérinaire, mais je crois que j'ai compris que les brebis n'ont pas un bon sens d'orientation. Un chien retrouve sa maison, même si on le laisse à des centaines de kilomètres, il va trouver son chemin, mais avec une brebis, on peut faire le même chemin chaque jour et rentrer, et une fois, on la laisse aller seule et elle perd son chemin. Et le prophète dit, nous étions comme ça. Nous avons tous perdu notre chemin parce que c'était le chemin de l'homme dans Luc 15 qui était dans un pays lointain pour s'éloigner du Père, pour s'éloigner de Dieu. Mais maintenant il dit, il y a une différence. Il dit, nous avons tous été errants comme des brebis et nous nous sommes tournés chacun sur son propre chemin. Alors, la première phrase s'applique à tous de la même façon. La deuxième phrase, c'est individuel. Vous voyez, il y a beaucoup de chemins différents qui sont tous faux. Il y a un qui dit, moi, je vais utiliser ma vie pour accumuler la richesse. Il y a un autre qui dit, oh, mais les richesses ne m'intéressent pas, moi, je veux m'amuser. Il prend le chemin des drogues, peut-être. Il y a plein de chemins différents. Et peut-être le chemin de chacun de nous, si on décrirait cela avant notre conversion, est différent. Mais ils ont tous en commun. C'était pour s'éloigner de Dieu. Mais la fin du verset dit que Dieu avait une solution pour tout cela, pour le fait que nous étions errants comme des brebis et pour chaque faux chemin qu'il y avait dans nos vies. Il dit, l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors il ne dit pas l'iniquité de tous. Il faut être prudent là. Et en fait, ce serait faux. Dieu n'a pas laissé tomber sur le Seigneur l'iniquité de tous. Mais de nous tous. Alors, qui est nous ? Nous, ce sont ceux qui ont dit oui, qui ont accepté, qui ont dit oui, nous étions errants. Nos chemins menaient dans la mauvaise direction. Et ce sont les mêmes personnes, les nous, qui peuvent maintenant dire, il a fait tomber sur lui toutes nos iniquités. Alors, cette image, bien sûr, évoque aussi le Seigneur comme berger. Ici, nous avons les brebis qui perdent le chemin, mais c'est intéressant que l'Ancien Testament parle à plusieurs reprises du Seigneur Jésus qui allait venir pour s'occuper de ses brebis. Et j'aimerais lire de Zacharie 11. Zacharie 11, verset 4. « Ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, paie le troupeau de la tuerie, que leur possesseur tue sans passer pour coupable, et dont les vendeurs disent, béni soit l'Éternel, je me suis enrichi. Et leur berger ne les épargne pas, car je n'épargnerai plus les habitants du pays, dit l'Éternel, et voici, je ferai tomber les hommes dans les mains l'un de l'autre, et dans la main de son roi, et ils écraseront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. » Verset 7. « Et je me mis à paître le troupeau de la tuerie, voire même les pauvres du troupeau. Et je pris deux bâtons, je nommerai l'un beauté et l'autre lien. » Et je me mis à paître le troupeau, et je détruisis trois bergers en un mois. Verset 10, je pris mon bâton beauté, je le brisai. Verset 11, elle fut rompue en ce jour-là. Les pauvres du troupeau qui pensaient garde à moi connurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Et je leur dis, si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon laissez-le. Et ils pesèrent mon salaire, 30 pièces d'argent. Et l'Éternel me dit, jette-le au potier, prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux. Et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. Et je brisai mon second bâton lien pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. J'aimerais aussi lire le verset 8. Et je détruisis trois bergers en un mois, et mon âme fut ennuyée d'eux, et leur âme aussi se dégoûta de moi. Et je dis, je ne vous paîtrai pas. Je ne vais pas parler de tous les détails, mais juste faire ressortir rapidement quelle est la pensée de Zacharie quand il annonce le Seigneur Jésus comme berger. Nous avons commencé à lire dans le verset 4 où Dieu dit « Paie le troupeau de la tuerie ». Alors, il y a deux questions qui se posent. Qui est le troupeau de la tuerie? Et à qui parle, est-ce que Dieu parle dans ce verset? Et dans le contexte, je pense que c'est clair. C'est Dieu qui parle à son Fils, le Seigneur Jésus. Il lui demande de s'occuper de son troupeau qui était supprimé, qui était sous beaucoup de pression, abusé. Alors le troupeau de la tuerie, c'était son peuple, au moment où le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Et combien ce peuple était abusé, un vrai troupeau de la tuerie. Pensez aux pharisiens, pensez aux personnes qui avaient le pouvoir à ce moment-là. Quand ils ont essayé de se mettre devant et quand ils n'ont pas apporté ce qui peut sauver, ce qui peut donner la nourriture au peuple de Dieu. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que vous pensez que c'était une tâche facile ou agréable? Pas du tout. Mais le Seigneur a donné cette réponse, verset 7, « Et je me mis à paître le troupeau de la tuerie. » Il est venu. Et très tôt, il a trouvé des personnes qui faisaient partie de ce troupeau. Et il s'est occupé d'eux. Il était ému de cœur. Pourquoi? Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Le Seigneur avait faim 40 jours et nuits. Mais quand il a enseigné, les gens venaient, ils n'avaient pas mangé un après-midi, il était ému de compassion. Vous voyez, il était là pour paître le troupeau de la tuerie. Il avait le temps. Même s'il frappait à la porte la nuit, il y avait Nicodème. Le Seigneur avait le temps. Même après un long jour de travail, tout le monde se rassemblait en dehors de sa maison et il était là. Il était disponible. Il les guérissait tous. Et des fois, c'était des individus. C'était une veuve et ceux qui étaient avec elle, qui portaient le seul fils de ce veuve, qui était en train de sortir de cette ville de Nain. Et le Seigneur était là. Il touche même le lit. Il donne la vie à ce jeune homme. Et maintenant, il ne dit pas, « Et maintenant, tu vas me servir. » Mais il le rend à sa mère. Merveilleux de voir le Seigneur, comment il s'est occupé. Il y a plein de détails qu'on ne peut pas tous évoquer, mais comment il s'est occupé avec amour de ce troupeau de la tuerie. Mais ce qui surprend maintenant, c'est qu'il dit dans le verset 8, « Mon âme fut ennuyée d'eux et leur âme aussi se dégoûta de moi. » Comment c'est possible? Un berger si parfait, si plein d'amour, si plein de compassion, et leur âme se dégoûta de lui. En fait, si nous lisons les évangiles, c'est exactement ce que nous trouvons, n'est-ce pas? De chapitre à chapitre, on remarque que la résistance augmente, qu'il y a la moquerie, qu'il y a la contradiction. Il y a même les gens de sa ville qui disent « Mais c'est qui ?» Ils pensent que c'est le fils de Joseph, que c'est le charpentier. Ils ne voient rien de sa gloire divine. Et en fait, quand il a touché leur conscience, il en avait marre. Comme il dit ici, « Leur âme aussi se dégoûta de moi. » Mais est-ce qu'on peut dire du Seigneur Jésus, « Mon âme fut ennuyée d'eux. » Bien sûr, il était très patient. Il avait cette compassion aussi. Mais aussi, il a vu la dureté de cœur. Et là, c'était un sentiment juste qui est décrit ici, qu'il a dû juger cet état de cœur si dur qui rejetait Dieu. Alors, je ne vais pas parler en détail, c'est très intéressant d'ailleurs, mais pas pour maintenant, de la question des deux bâtons, lien et beauté. Alors, ces deux bâtons parlent des conséquences merveilleuses pour le peuple d'Israël de l'arrivée de ce berger. Alors s'ils avaient accepté ce berger, ils auraient pu goûter les conséquences qui sont décrites par ces deux bâtons. Alors ces deux bâtons parlent de deux choses. La première, c'est le lien entre les deux tribus et les 10, alors l'unité du peuple entier. Et le deuxième, c'est le règne sur les nations. Mais le prophète rompt les deux bâtons, pourquoi ? Pour dire, si vous rejetez le berger qui est venu vous voir, vous rejetez aussi la bénédiction. Et vous voyez, il y a une application pratique pour nous. Nous avons dit dans la prière, celui qui veut qu'il vienne et qu'il boive. Mais il faut accepter ce berger. Il faut avouer, oui, je fais partie de ces brebis qui sont errantes. Et si on l'accepte, on peut goûter les conséquences merveilleuses, la bénédiction. Si on rejette le berger, le bâton est rompu. Alors, le Seigneur dit, verset 12, « Si cela est bon à vos yeux, donnez-moi mon salaire, sinon, laissez-le. » Et maintenant, il présente ce salaire, et ce sont les 30 pièces d'argent. Alors, c'est un passage très, très remarquable, prophétique, annoncé plus de 4 siècles avant la venue du Seigneur. Zacharie annonce que le Messie serait vendu et il annonce même le prix. Dans Matthieu 27, on lit l'accomplissement de cela, que Judas l'a vendu pour 30 pièces d'argent, prix d'un esclave. C'est comme ça qu'on a estimé ou pas estimé le Seigneur Jésus. Alors, on dirait que dans Matthieu 27, c'est une transaction entre Judas et les sacrificateurs. Ils se mettent d'accord sur le prix. Mais ici, c'est une transaction entre le Messie et son peuple. Et cela jette une lumière spéciale sur ce qui est arrivé en Matthieu 27. Ce n'était pas seulement une question de Judas, mais c'était un appel du Messie qui a posé la question à son peuple, « Est-ce que vous m'appréciez ? Combien, quelle valeur vous mettez sur moi ?» Il dit, « J'ai bien compris la réponse. Vous avez dit le prix d'un esclave. » Et ils n'ont même pas payé le prix d'un esclave pour profiter de ce berger, mais pour se débarrasser de ce berger, pour le vendre. Alors, en conséquence, les bâtons sont rompus. Alors, j'aimerais lire ce troisième passage dans Ézéchiel 34. Et le verset, je lis juste le verset 23. Et je susciterai sur eux un pasteur qui paîtra mon serviteur David. Lui les paîtra et lui sera leur pasteur. Alors, une fois qu'on arrive à Ézéchiel 34, on voit cette controverse que Dieu avait avec les faux bergers. Ils ne s'étaient pas occupés du troupeau. Dieu déclare toutes les fautes qu'ils ont faites, comment ils se sont enrichis et ils n'ont pas agi pour le bien du troupeau. Mais finalement, il dit, il y aura un jour où tout cela changera. Moi, je vais envoyer mon berger et il va rassembler ce troupeau dispersé. Et en disant cela, Ézéchiel parle d'un autre jour que Zacharie. Ce que Zacharie a prophétisé s'est accompli il y a 2000 ans. Mais ce que Ézéchiel a prophétisé est encore futur aujourd'hui. dans l'avenir. Les bâtons étaient rompus pour le moment, mais dans l'avenir, et Ézéchiel 34 parle de cela, le Seigneur Jésus va rassembler son peuple Israël, même les 12 tribus, et les promesses de Dieu seront accomplies. Quelle est la base? Si d'abord les bâtons sont rompus, et après Dieu dit, mais je vais apporter la bénédiction quand même. Comment c'est possible? Vous voyez la réponse, en fait, je ne l'ai pas lu, mais je lis maintenant dans Zacharie 13. Zacharie 13, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Vous voyez ce berger qui est venu paître le troupeau de la tuerie, qui s'est occupé humblement de ses pauvres brebis. Dieu l'appelle mon berger. Cette expression montre toute son approbation, tout son plaisir dans le Seigneur Jésus comme berger. Mais qu'est-ce qui se passe? Épée, réveille-toi. Ici, nous regardons à la croix, nous voyons le Seigneur Jésus, après les premières 3 heures, tout à coup, à midi, il fait nuit. On n'entend plus personne, ni les ennemis, ni les soldats romains, ni les disciples, et même pas le Seigneur Jésus pendant 3 heures. Il est sombre. Il est absolument tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, un mystère. Et Zacharie 13, 7 nous révèle cela. C'est l'épée de Dieu qui s'est réveillée contre son berger. Alors maintenant, ce berger qui est venu pour le bien du troupeau, il souffre pour le troupeau et Dieu le juge même pour leur péché. C'est aussi la réponse qu'on trouve en Ésaïe 53. Pourquoi? Parce que nos iniquités ont été placées sur lui. Je ne vais pas te parler très longtemps, mais j'aimerais maintenant attirer votre attention sur un court passage dans le Nouveau Testament pour montrer ce qui se passe entre Zacharie 11 et 13 et Ézéchiel 34. Alors, ce qui se passe entre la venue et crucifixion du Seigneur il y a 2000 ans et la bénédiction future du peuple d'Israël. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre époque, dans l'époque chrétienne? Et j'aimerais juste montrer quelques détails ou rappeler quelques détails de Jean 10. Jean chapitre 10, verset 2. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Nous trouvons dans ce chapitre 3 images et c'est bien de distinguer les 3 images. La première image, c'est l'image d'une cour, c'est l'expression ? Une cour dans laquelle se trouvent les brebis entourées par un mur. Ça se comprend? La cour? Le parc? Merci. Le parc dans lequel se trouvent les brebis. Alors, il y a une personne qui entre. Il y a plusieurs personnes qui essayent d'entrer. Mais eux, ils essayent de surmonter le mur. Alors le Seigneur leur dit, ce ne sont pas des bergers. Mais il y a une personne qui entre par la porte. Et le verset 2 dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. C'est le Seigneur Jésus. Comment il est entré par la porte? Parce qu'il était né à Bethléem. Parce qu'il était fils de David, fils d'Abraham. Parce qu'il a accompli toutes les prophéties quant à sa personne. Il est venu selon le chemin prescrit, selon les Écritures, selon ce que Dieu avait annoncé. Il prend ce chemin très humblement et il arrive chez ses brebis, et ce sont les brebis d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait avec eux? Verset 4. Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Ça, c'est quelque chose que nous ne trouvons jamais dans l'Ancien Testament. Zacharie dit « Le Messie viendra pour s'occuper de son troupeau », oui. Mais il ne dit pas ce que nous trouvons ici, il mène dehors. Mais le Seigneur l'a fait. Ceux qui ont écouté sa voix, il a mené en dehors de ce système juif. Il y a un bel exemple dans le chapitre précédent, c'était l'homme né aveugle. Si vous lisez l'histoire, vous allez dire, c'était un comportement terrible, on l'a jeté dehors, exclu de la synagogue. C'est vrai. Mais le Seigneur dit, il y a un autre côté. Ce n'est pas seulement qu'eux, ils l'ont mis dehors, mais le bon berger, il est venu pour le mener dehors. Alors, qu'est-ce qui se passe en dehors? Verset 7, « en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des brebis. » Le Seigneur est la porte. Il était d'abord la porte pour les brebis qui devaient sortir de ce système qui rejetait le Seigneur Jésus. Mais deuxièmement, il est aussi la porte pour nous. Verset 9. Moi, je suis la porte. C'est la deuxième image. Hein. Moi, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de la pâture. Alors, première image, il y a une porte. Le Seigneur entre par la porte, il arrive chez son peuple. Deuxième image est différente. Le Seigneur dit, ce n'est pas que j'entre par la porte, mais je suis la porte. Et maintenant il dit, tous ceux qui entrent par moi, ils vont faire une expérience. Regardons cela un peu. Qu'est-ce qui se passe si on entre? Je dois d'abord expliquer qu'est-ce que ça veut dire entrer. Qu'est-ce que ça veut dire une porte? C'est très simple. Une porte, tout d'abord, c'est le chemin prévu par l'architecte pour entrer dans la maison. Et une porte donne accès à ce qu'il y a dans la maison. Alors on pourrait dire accès à la bénédiction. Et le Seigneur est vraiment ça. Il est la porte, il est l'accès à toute bénédiction. Par exemple, il dit, premier point, il sera sauvé. La première bénédiction qu'il donne, c'est le salut. Ceux qui écoutent sa voix, ceux qui viennent à lui, ceux qui entrent par lui, et remarquons bien que le Seigneur ne dit pas « je suis une porte ». Très important, il dit « je suis la porte ». Il y a uniquement un chemin qui amène à la bénédiction. Et la première bénédiction, c'est le salut. Tout d'abord, le salut pour nos âmes, un salut éternel, un salut qui nous permet d'être dans la présence de Dieu et de nous réjouir cela. il y a autre chose, il n'y a pas seulement le salut. Et il entrera et il sortira. Alors ici, il n'est pas question d'entrer dans le parc juif ou de sortir de ce parc. Il est juste question d'entrer et de sortir. Et c'est un idiome, une expression qui veut dire la liberté. On trouve souvent dans l'Ancien Testament, il était libre à entrer et sortir, et ça veut dire qu'il avait toute liberté. Le Seigneur dit, moi je suis cette porte qui vous donne la vraie liberté. Alors, qu'est-ce que c'est la liberté? Vous voyez, tout d'abord, c'est en contraste avec ce parc juif, avec cette clôture, ce mur par lequel les brebis juives étaient entourées. Le Seigneur dit, moi je donne la liberté. Vous entrez, vous sortez, vous êtes vraiment libre. Il faut faire attention maintenant, qu'est-ce que cela veut dire exactement pour nous comme chrétiens? Qu'est-ce que c'est la liberté chrétienne? Est-ce que ça veut dire ne pas être trop exact? Des fois, on fait des exceptions, on fait des choses qu'il ne faudrait pas faire. La liberté chrétienne veut dire que je ne suis plus esclave du péché. Si je pratique le péché, le Seigneur dit bien, on est esclave du péché. Alors, la liberté veut dire, je n'ai plus besoin d'obéir mon ancien maître, le péché. Et combien c'est merveilleux de ne plus devoir servir ce maître cruel. La liberté chrétienne veut aussi dire qu'on a la capacité de se réjouir de ce bon berger, de se réjouir du Seigneur. Chercher quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus, il ne sait pas le faire. Il n'est pas capable de chanter un cantique du Seigneur Jésus et de s'en réjouir. Mais si on a écouté sa voix, on est devenu sa brebis, on a cette liberté de trouver plaisir en lui. Troisièmement, et il trouvera la pâture. Vous voyez, ce sont tous des toutes des bénédictions qu'on ne trouve pas dans Zacharie et même pas dans ce sens en Ézéchiel, mais dans l'époque chrétienne. Il y a la pâture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque jour, nous pouvons ouvrir les Écritures, on trouve le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et on est nourri. Alors, le salut, la liberté et la bonne nourriture. Verset 10 à la fin. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Le Seigneur parle d'abord du voleur. Il veut s'enrichir. Il utilise même la ruse et la force. Et le Seigneur dit, moi, je suis absolument le contraire. Je ne suis pas venu pour m'enrichir, surtout pas pour voler, mais je suis venu pour donner. Et il donne un cadeau, un don immense. Il l'appelle la vie. Et en fait, c'est une expression spéciale ici. Il dit la vie en abondance. Dans un sens, les croyants de l'Ancien Testament qui étaient convertis avaient déjà la vie divine. Mais ils n'avaient pas la vie en abondance. Cela inclut la connaissance du Père et du Fils, la communion avec des personnes divines, comme nous lisons dans le chapitre 17, verset 3, « C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Il y a un autre point dans le verset 14. je peux lire 11 et 14. « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour les brebis. » 14. « Moi, je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens comme le Père me connaît et moi, je connais le Père. Et je mets ma vie pour les brebis. » À deux reprises, le Seigneur Jésus dit « Je suis le bon berger ». Dans la première image, il disait seulement « Il est le berger des brebis ». C'était sa mission pour Israël. Mais maintenant, il dit « Je suis le bon berger ». C'est encore plus. Et il donne deux raisons différentes. Et la première raison, je peux seulement dire, si cela ne touche pas nos cœurs, quelque chose ne marche pas. Il dit « Le bon berger met sa vie ». En Matthieu 13, vous trouvez le commerçant qui donne tout, mais le bon berger, il ne donne pas seulement tout, il donne sa vie. C'est bien sûr sa vie en tant qu'homme. C'est une autre expression dans l'original que la vie qu'il donne, c'est la vie éternelle. Alors, il met sa vie en tant qu'homme et en réponse, il peut donner une vie divine, la vie éternelle. Deuxième raison, je suis le bon berger, verset 14, et je connais les miens et je suis connu par des miens. Alors, il y a des brebis et il y a ces brebis. Et maintenant, il parle spécifiquement de ces brebis. Il dit, le deuxième aspect pour lequel je suis le bon berger a à faire avec le sujet de connaissance. Je connais les brebis et les brebis me connaissent. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'il compare cette relation de connaissance, je n'aurais jamais osé de le faire, il la compare avec la relation de connaissance entre lui et le Père. Il dit, comme le Père me connaît et moi je connais le Père, les brebis connaissent le berger et le berger les connaît. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais une proposition. Le Père me connaît. Cela veut dire le Père a regardé sur la terre, il a vu le Seigneur en tant que berger et c'était l'objet de son cœur. Et je connais le Père, cela veut dire que le Seigneur avait une pleine confiance dans son Père. Il est entré dans des circonstances très très difficiles, mais il disait, je ne suis pas seul, mon Père est toujours avec moi. Il y a Lazare qui est mort, et le Seigneur dit, Père, je sais que tu m'entends toujours. Et même quant à la coupe, il disait, la coupe que le Père me donne, est-ce que je ne l'accepterai pas? C'est cette relation entre lui en tant qu'homme, Messie, et le Père, une pleine confiance du Seigneur dans son Père, et pour le Père, il était l'objet de son cœur. Et maintenant le Seigneur dit, appliquons cela à la relation entre mes brebis et moi. Alors, vous pouvez avoir une pleine confiance en moi, votre berger. Dans chaque circonstance, chaque situation, vous pouvez dire, mon berger est là, il s'occupera de moi. Mais ce qui est peut-être le plus incompréhensible, c'est la deuxième partie, hein. Le Seigneur était l'objet du cœur du Père, on comprend bien. Mais maintenant, il dit, si vous êtes une brebis de ce berger, vous êtes l'objet du cœur de ce berger. Il s'occupe de vous. Vous êtes important pour lui. Il parle d'un homme qui sert pour le gage, pour le salaire. Il dit, quand le loup vient, il s'en va aussi vite que possible. Il a peur. Il laisse les brebis. Et il donne cette raison. Il dit, parce qu'il... peut-être vous trouvez plus rapidement, mais en principe, il dit, parce que cet homme qui sert pour un salaire, il n'a pas un intérêt dans les brebis. Le Seigneur est le contraire. Il prend un intérêt dans les brebis. Je lis juste un verset là dans 1 Pierre 5. Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. Alors l'homme qui sert pour le salaire, il ne prend pas soin des brebis. Mais le Seigneur, il prend soin et les brebis peuvent avoir cette pleine confiance. J'aurais beaucoup de joie de continuer, mais je vais terminer maintenant. Je mentionne juste deux aspects encore qui suivent dans ce chapitre. Nous avons vu maintenant la riche bénédiction des brebis qui connaissent ce berger. Surtout la vie en abondance, le salut, la liberté, le pâturage, pâturage, la nourriture, et maintenant cette connaissance mutuelle. Mais maintenant, le Seigneur dit, il y a encore un tout autre aspect. Il n'est pas seulement question des brebis, mais ce que le bon berger a fait, il a aussi fait pour le Père. Il dit, moi, j'ai cette autorité de laisser ma vie, de donner ma vie, ce que personne, que nul autre peut faire. Et il dit, je l'ai reçu comme commandement de mon Père. À première vue, c'est une contradiction. Comment c'est possible que c'est un acte volontaire qu'il fait parce qu'il veut le faire, il donne sa vie, et le prochain verset, il dit, c'est un commandement de mon Père. Mais ce n'est pas une contradiction. C'est merveilleux. Nous pouvons adorer à cause de cela. Il a accompli cette œuvre à la croix et c'était en même temps un acte absolument volontaire de sa part et en même temps c'était un acte d'obéissance envers son Père. Il dit, pour cela, mon Père m'aime. Il a donné, pour ainsi dire, un nouveau motif à son Père qu'il aimait déjà, de l'aimer encore à cause de cette raison qu'il donna sa vie. Deuxième point, si vous continuez dans le chapitre, à partir du verset 27, je crois, il y a encore un court passage où le Seigneur parle encore une fois de ses brebis. Il avait été interrompu. C'est une conversation pas très agréable où les gens l'attaquent, ils le méprisent, ils le moquent. Et après, le Seigneur dit, oui, c'est parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. C'est pour cela que ça vous choque. Mais à ce moment-là, il se met de parler de nouveau de ses brebis. Il dit quelque chose, je vais juste lire cela, il dit quelque chose de merveilleux sur elle. Verset 27, « Mes brebis écoutent ma voix. » Et moi, je les connais, et elles me suivent, et je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Maintenant, il parle de la sécurité éternelle des brebis. Et c'est très beau de voir combien de raisons il donne. Il dit, vous n'avez pas seulement toutes ces bénédictions maintenant, la liberté et la nourriture, et etc., mais vous avez une bénédiction qui est absolument sûr, éternellement. Et il dit, première raison, vous avez la vie éternelle. Une vie qui peut être ôtée demain n'est pas une vie éternelle. Mais peut-être quelqu'un dit, oui, la vie est éternelle, mais moi je pourrais la perdre. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit ? Il dit, et elles ne périront jamais. Ces brebis. Alors on ne peut pas dire, oui, la vie est éternelle, mais la brebis périra. Non. C'est la deuxième assurance. La vie est éternelle et les brebis ne périront jamais. Mais il ajoute encore, personne ne les ravira de ma main. Si vous traversez la route avec un enfant et l'enfant tient votre main, il pourrait à chaque moment laisser votre main et partir sur la route. Mais si vous prenez la main de l'enfant, l'enfant est sûr. Et le Seigneur dit, vous êtes dans ma main. Encore, c'est la troisième assurance, une assurance absolue. Il n'a pas encore fini. Il dit dans le verset 29, « Et mon Père qui me les a donnés. » C'est la quatrième assurance. Pourquoi ? Mais il dit, « Vous êtes un cadeau, un don que j'ai reçu de la part de mon Père. Est-ce que vous pensez vraiment que je laisse partir ce cadeau ? Si c'est quelqu'un que le Père m'a confié, vous pouvez être sûr que je vais le garder. » Et puis il dit, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est la cinquième assurance. Il dit, en plus de tout ce qu'on a évoqué là, comme assurance supplémentaire, vous êtes encore dans la main toute-puissante du Père. Absolument sûr pour toute l'éternité. Il conclut avec cette phrase. Je termine avec cela. Moi et le Père, nous sommes un. C'est une phrase très profonde. Il y a deux personnes, nous sommes, mais les deux sont un. Ça fait partie de la vérité de la Trinité. On voit dans la réaction que les gens étaient choqués. Peut-être qu'ils étaient moins choqués s'il avait dit « Mon Père et moi ». Mais ce qu'il dit, c'est encore plus clair. Moi et mon Père. Alors, on apprend ici quelque chose de merveilleux. Ce berger humble qui est venu, qui a servi, il est Dieu. Il est Dieu lui-même. Moi et mon Père sont un. Et puis il dit, nous en tirons. Si il dit, moi et le Père sommes un, ils sont unis dans leur, je ne vais pas dire souci, mais dans leur façon d'assurer la sécurité des brebis. Ils utilisent leur pouvoir commun pour protéger les brebis, pour les assurer pour toujours. Merveilleux de voir moi et le Père, le Fils et le Père, unis avec ce but, le bien de leur brebis. La question pour chacun ici, c'est est-ce que j'ai entendu sa voix ? Est-ce que je le connais ? Est-ce que je peux dire oui ? En fait, c'est mon berger. Je le suis. Je connais quelque chose de cette liberté, de cette nourriture. Je me réjouis de ce salut, de cette vie éternelle. Que le Seigneur donne que chacun dans cette salle cet après-midi puisse donner une réponse affirmative. Oui, je connais le bon berger qui qui s'est donné, qui a laissé sa vie pour moi.